inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 37.
Dernier jour de guerre et joie de l'armistice.
Parmi les politiques, il y a ceux qui, dès janvier 1917, réclamaient la fin des combats moyennant de fortes concessions faites à l'Allemagne. Et ceux de l'autre bord qui, en 1918, auraient voulu que les troupes françaises aillent jusqu'à Berlin réclamer l'armistice. Mais l'arrêt des combats va se passer autrement. Entre le 8 et le 10 novembre 1918, André Séjournant voit passer le plénipotentiaire allemand, accompagné du commandant de Bourbon-Busset, du lieutenant de Kerarmel, porteur du drapeau blanc et d'un clairon.
Et on vit arriver l'auto qui venait de reconduire les parlementaires, chargés de bouquets de fleurs que le clairon avait reçus des habitants belges. Aussitôt l'auto arrêté, on l'entourait pour avoir des nouvelles des boches. Le conducteur et le clairon nous affirmèrent que les Boches étaient en pagaille. Ils partaient chez eux par petits groupes en traversant la Belgique. Nous n'avions rien à craindre devant nous. Le drapeau blanc que l'auto avait rapporté, on se le disputa par morceaux. J'ai pu en avoir un bout que j'ai rapporté comme souvenir. Mes deux fourragères en forment le cadre et la croix de guerre et l'insigne de blessé font la parure.
D'ailleurs, la famille d'André Séjournant conserve aujourd'hui encore ce souvenir. Stationné à Ohain, près de Fourmies et de la frontière belge, André Séjournant comprend que, décidément, l'armistice est proche.
Dimanche 10 novembre 1918. Au matin, nos patrouilles avaient dépassé Trélong et arrivaient près de Chimay lorsqu'elles furent dépassées par un régiment d'infanterie qui nous relevait. Dans le bois d'Ohain, il y avait un train de ravitaillement Boche qui n'avait pu être emmené, on le pilla avec les habitants du pays. On se partageait les bouteilles de vin blanc bouchies du Rhin, bien des choses, etc. Vers midi, le bataillon était rassemblé à Ohain pour y rester en réserve. Nous étions logés sur la place, près de l'église. On installa une antenne du clocher à notre poste pour recevoir les nouvelles de la tour Eiffel au sujet de l'armistice. À 16h, on recevait le communiqué et on resta à l'écoute toute la nuit. À 24 heures, on recevait l'heure officielle. Lundi 11 novembre 1918. Après le communiqué, vers 3 heures du matin, on recevait la réponse des Allemands. Ils acceptaient toutes nos conditions et l'armistice devait être signé à 11 heures du matin, le 11. Ah, nous étions heureux. La guerre finissait. Vers 10h30, les Anglais, qui étaient à notre gauche, vidèrent toutes leurs munitions sur les Boches. C'était sans doute pour leur dire au revoir. À 11h, tout était calme, on n'entendait plus aucun bruit de canon, et à midi, on remballait nos appareils à la voiture et nous partions cantonner à Fourmies.
De son côté, André Bitteau, blessé le 1er novembre 1918, explique la joie qu'il a ressentie le 11 novembre.
Tout le monde oubliait les rancœurs, les misères, les férocités humaines de ces 4 années maudites. Nous avions la paix. Il faut avoir supporté toutes les souffrances de ces 4 années de ténèbres pour apprécier ce que contient ce mot magique, la paix. Il y avait de quoi être content. Aussi, la joie s'extériorisait et coulait comme un torrent dans les rues de Troyes. En ces jours, c'était pas tant la victoire qu'on fêtait, mais surtout la fin de la guerre. J'eus ma permission de convalescence, heureux de passer ce séjour supplémentaire au pays. Plus heureux encore, la guerre finie, d'être sûr d'y revenir. La guerre était donc finie pour moi le 1er novembre 1918. 11 jours après, c'était l'armistice. En ces 11 jours, combien de malheureux poilus ont-ils été happés par la Camarde? Ce fut donc une joie universelle, mais je crois quand même que les plus satisfaits, et j'étais du nombre, étaient ceux qui couraient les risques tous les jours d'être tués. La victoire, si réellement il y eut victoire, était payée chère. Beaucoup trop cher même. Et je me demande encore, surtout au point de vue social, ce que le petit peuple a pu tirer comme bénéfice de cette grande victoire. Ah, c'était peut-être pas la vie de ceux qui étaient à l'abri et dont les affaires prospéraient du fait de la guerre, mais c'était le sentiment, et j'étais encore du nombre, de beaucoup pour qui la plus grande victoire, c'était d'avoir sauvé sa peau. N'en déplaise aux patriotards et matamores, dont quelques spécimens, descendants de ceux de 14-18, existent encore et qui seraient les premiers à partir pour la prochaine. Mais attention, non pour se faire tuer, mais pour, en employant le fameux système D, capter bien à l'abri le plus possible de galons et de médailles, sans risque.